Place Info.
Bonsoir à la une, Mélenchon qui traite les policiers de barbares. La bourde sur la niche fiscale des seniors attribuée à Muriel Pénicaud. Un rapport catastrophe du GIEC sur les océans. Et un président qui reparle décidément d'immigration. C'est dans les informés avec Audrey Goutard, journaliste à France 2, présentatrice de Ligne Directe le vendredi à 19h30 sur France Info, le canal 27. Avec Julie de la Sablière, enseignante en gestion de crise à Sciences Po Paris. Avec Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France. Et Sylvain Courage, rédacteur en chef à L'Obs, qui titre demain L'Obs. Macron a-t-il changé ? Bonsoir à tous les quatre et bienvenue. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Peut-on traiter les forces de l'ordre de barbares ? Un responsable politique s'y est donc risqué, et pas des moindres, puisqu'il s'agit, vous l'avez compris, du leader de la France insoumise hier, discutant avec des manifestants contre la réforme des retraites, qui ont prétendu être victimes de violences policières. Et voici ce que leur a répondu Jean-Luc Mélenchon.
C'est des barbares, soyez prudents, hein, parce qu'ils ne s'arrêtent plus maintenant. Hein.
Je suis revenu aujourd'hui, je savais que vous serez là.
Merci.
J'ai dit à François,
Voilà, des barbares, soyez prudents, parce qu'ils ne s'arrêtent plus maintenant, Audrey Goutard, c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Un patron de parti peut dire une chose pareille.
Ce qui est étonnant, c'est que ce patron de parti là dit cela, parce que jusque-là, même les radicaux de gauche, la gauche la plus radicale se moquait toujours un peu des insoumis en disant qu'ils étaient pro-flics. Il avait cette réputation de soutenir finalement un espèce d'ordre républicain.
Ouais, ça, c'est culturel, ça. Oui.
C'est culturel. Ouais. Et là, tout à coup, effectivement, on se rend compte, on voit un Jean-Luc Mélenchon qui ne cesse de fustiger la police, hein, et les forces de l'ordre. Alors, c'est vrai que à l'heure actuelle, s'attaquer à la police, lorsqu'on est à l'extrême de la gauche, c'est plutôt quelque chose de relativement sain selon ces critères-là. Après, la question qui se pose, c'est est-ce qu'un élu peut effectivement dire cela. En même temps, c'est pas une insulte non plus. Je suis pas sûr que ce soit répréhensible par la loi.
S'il a un courage dans le contexte actuel, le post-gilet jaune, Jean-Luc Mélenchon prend un risque en traitant les policiers de barbares.
Il va un peu toujours plus loin quand même, parce que il sort quand même d'une audience à propos de la perquisition et de sa réaction très violente, où il avait quand même un peu bousculé un procureur. Maintenant, il traite les policiers de barbares. On a l'impression qu'il y a une sorte de radicalisation de Mélenchon, une colère, parce que c'est vrai que c'est un vrai républicain. D'où ça vient finalement ces injures à l'égard des institutions? C'est pas très présidentiable, en tout cas, de mettre en cause la police, qui est pas du côté de la barbarie. En principe, c'est là pour le maintien de l'ordre, c'est plutôt du côté de la civilisation.
Ouais, Julie de la Sablière, au fond, tout est filmé de nos jours. Hein. C'est un risque, hein, à chaque fois, de se lâcher un petit peu dans la rue comme ça.
C'est clair, mais on sent qu'effectivement, il y a une escalade, et je suis pas tout à fait d'accord avec Audrey. Je trouve que c'est une insulte quand on parle justement des forces de l'ordre qui sont là pour le maintien de l'ordre.
La suite de la phrase qui était plus insultante
à mon sens. Effectivement, c'est-à-dire qu'à un moment, il est toujours dans cette victimisation, etc. Et de la part d'un homme qui a été quand même un tiers des jeunes ont voté pour lui en 2017, il a quand même une responsabilité.
Bien sûr.
À tenir, et c'est sûr que c'est pas une parole d'homme d'État, et donc ça le décrédibilise à mon sens. Par ailleurs, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, on essaie de se rappeler de la dernière fois où il a abordé un sujet de fond dans notre vie politique, c'est vrai qu'on a du mal à se souvenir, c'est-à-dire qu'il est que dans l'incartade et dans ces petites phrases qui finissent par le décrédibiliser complètement.
Ouais, Stéphane Vernier, je vais vous faire réagir à ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais d'abord qu'on écoute ce qu'en a dit Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique et solidaire, qui était l'invité du 18-50 de France Info.
Et moi, je pense que c'est inacceptable. Jean-Luc Mélenchon, qui il y a quelques mois nous disait qu'il était la République, ferait bien de reprendre un comportement républicain, de respecter nos policiers, dont la mission est d'abord d'assurer le droit de manifester en toute sécurité. Et effectivement, on peut déplorer des violences, mais c'est celle des Black Blocs qui ont eu lieu en marge de la marche pour le climat de samedi dernier. Donc je pense que c'est intolérable d'avoir un responsable politique qui s'exprime de cette façon sur nos policiers.
Alors sur le contexte, hein, Stéphane Vernier, il faut le rappeler, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a demandé des excuses de Jean-Luc Mélenchon en direction des forces de l'ordre, et ce à quoi le leader de la France insoumise a répondu sur Twitter également, en évoquant la seule manif climat au monde réprimée, celle de samedi dernier donc, un déchaînement de violence disproportionné. Ce qui est troublant, c'est le contexte actuel de ces manifestations à répétition et de ce procès en violence des forces de l'ordre.
Non, alors ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un déchaînement de violence au moment de la manif pour le climat, que la France est le seul pays où ça est arrivé, mais ce que oublie de dire Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il y avait une présence de Black Bloc, et on aurait pu dire aussi, ah bah, il fallait pas réprimer cette manifestation, les forces de l'ordre n'auraient pas dû intervenir, c'était disproportionné, et croyez-vous qu'il se serait passé? À votre avis, les Black Blocs étaient juste venus pour défiler, étaient juste là pour défiler en faveur du climat? Pas du tout, ils étaient venus pour casser, et on est dans un pays où le niveau de violence en général a très fortement augmenté. Il ne cesse d'augmenter, ce qui rend la réflexion de Jean-Luc Mélenchon particulièrement grave et effrayante, comme l'a dit Elisabeth Borne, c'est que c'est un haut personnage politique. Il a 40 ans de carrière derrière lui. Il a quand même assuré à peu près tous les postes qui existent, peut-être sauf maire. Il a eu des fonctions de ministre. Il a été sénateur, député européen. C'est quand même quelqu'un qui a dit.
Il a balayé à peu près tout le spectre.
Hein, complètement, et qui a dit la République, c'est moi. Et à partir du moment où il a ce type de propos, si vous voulez, moi je pense que ça participe d'un climat qui est particulièrement délétère et qui encourage aussi et qui ne peut faire qu'encourager ces violences qui sont inacceptables des deux côtés. Et je suis assez d'accord avec Julie de la Sablière sur je pense qu'il est aussi dans cette petite phrase, dans l'élan qui a été le sien, par rapport à ce qu'il a pu avoir comme outrance, ce qu'il a pu dire sur le fait que il y avait une instrumentalisation de la justice contre lui et contre son parti. Je pense que ça fait écho.
Il y a l'épisode de la perquisition que rappelait tout à l'heure d'ailleurs Sylvain Courage. Les 20h, on va rester là, un petit peu là-dessus encore, 20h et 10 minutes sur France Info. Tout d'abord, le rappel de l'info avec vous, Jules de Kiss.
En Israël, Benjamin Netanyahou demande à Benny Gantz de le rejoindre dans un gouvernement d'union. Le Premier ministre sortant vient d'être reconduit par le président israélien après 3 jours de tractation, mais il n'a pas de majorité à l'Assemblée après les législatives. Il doit composer avec ses rivaux du centre, notamment pour former un exécutif. Qu'attendent encore les États pour passer à l'action, s'interroge le WWF après un nouveau rapport alarmant sur les océans. L'inaction à court terme aura des conséquences irréversibles, d'après l'ONG écologiste sur France Info. Les experts du GIEC anticipent un élèvement du niveau des eaux de plus d'un mètre d'ici la fin du siècle si rien ne bouge. Une submersion des terres qui entraînerait des centaines de millions de migrants climatiques. Ce serait inédit, un débat de l'entre-deux-tours d'une présidentielle tournée depuis une prison. La question se pose en Tunisie où l'un des deux candidats, Nabil Karoui, est toujours incarcéré pour des soupçons de fraude fiscale. S'il n'est pas libéré d'ici le second tour, dans plus de 2 semaines, la télévision publique tunisienne se dit prête à installer son plateau dans la prison. Google refuse de payer les entreprises de presse pour la diffusion de leur contenu sur Internet. Cela n'est pas acceptable pour le ministre de la Culture, Franck Riester. Le géant américain accepte toutefois de ne publier les articles, les photos ou les vidéos que si les médias qui les produisent l'y autorisent. Et puis ça reprend sur les pelouses de Ligue 1 de football, début de la deuxième mi-temps pour les 7 matchs en cours. Les scores à la pause, 1-0 pour Lille contre Strasbourg, même score pour Metz contre Saint-Etienne et pour Montpellier contre Nîmes. À 21h, le Paris Saint-Germain reçoit Reims.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Interrogé sur les mots de Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière, le député de la France insoumise de Seine-Saint-Denis dans les couloirs de l'Assemblée nationale, a tenté, si je puis dire, d'élargir le débat.
Si le mot barbare choque, utilisez un autre mot, brutalité, sans aucun doute. Le bilan, je vous le rappelle, vous l'avez vous-même rappelé, je l'espère, à l'occasion des différents sujets que vous avez fait là-dessus. 2500 personnes ont été blessées durant le mouvement des Gilets jaunes. 6 personnes ont eu les mains arrachées, 20 ont été éborgnées, 2 morts. Et je rappelle également, il faut l'ajouter, l'utilisation des forces de l'ordre, les consignes qui ont été données, qui ont amené sans aucun doute la mort de M. Steve Canisso. Voilà la réalité. C'est de ça le sujet dont il faut parler. Est-il encore possible de manifester dans ce pays pour des causes qui sont des causes d'intérêt général, sans qu'à la fin toute une série de gens soient brutalisés?
Il va falloir vérifier sans doute tous ces chiffres que donne Alexis Corbière. Mais Audrey Goutard, vous pensez vraiment que Jean-Luc Mélenchon l'a fait sciemment pour déboucher sur ce débat-là?
En tout cas, il se pose en porte-voix d'une frange de manifestants que l'on voit le samedi, effectivement. Donc Stéphane Vernet parlait d'ultra-violents, d'ultra-énervés, même au-delà des Black Blocs, de gens ultra-énervés qui ne se sentent représentés par aucun parti aujourd'hui. Plus généralement, qui ont du mal à se trouver des leaders, qui refusent d'ailleurs globalement les leaders. Regardez certains gilets jaunes, ultra-gilets jaunes, qui ont rejeté complètement tous leurs leaders. Et donc là, Jean-Luc Mélenchon semble vouloir être un peu leur porte-voix. Et après, effectivement, vous avez derrière la France Insoumise qui rattrape un peu le coup en...
Effectivement,
en s'exprimant, en élargissant le débat. Je tiens à rappeler, pardon, on parlait des chiffres, etc. Il y a quand même plus de 1000 policiers qui ont été blessés aussi lors de ces manifestations.
1800, d'après le ministère de l'Intérieur.
Exactement.
C'est une précision de Stéphane Vernet. Sylvain Courage, au fond, est-ce qu'il y a, comme le dit ce député, une chape de plomb sur la réponse policière dans les manifestations depuis un an?
C'est un débat qui est légitime, parce que c'est vrai que le bilan est lourd. Alors, le mouvement des Gilets jaunes, il était aussi particulier dans son expression. Il était aussi violent par moments. Et donc, il faut absolument faire la lumière là-dessus, sur toutes les brutalités, toutes les violences, toutes les blessures qui ont pu être causées. C'est un débat démocratique, mais c'est autre chose que de faire ce que Jean-Luc Mélenchon propose, c'est-à-dire de se poser en protecteur de cette frange désespérée et de leur dire à la fois soyez prudents, tout en stigmatisant la police. Il se veut responsable, il ne l'est pas du tout.
Allez, en tout cas, le débat n'est pas terminé puisque le syndicat Alliance Police Nationale envisage de porter plainte et surtout appelle demain à manifester à 11h devant le siège parisien de la France Insoumise. Tout à fait autre chose à présent. Nous nous demandions hier soir sur ce plateau qui avait eu la belle idée de supprimer l'exonération fiscale accordée aux personnes âgées non dépendantes quand elles emploient une aide à domicile, un joli tollé. Édouard Philippe, vous le savez, y a renoncé à l'Assemblée nationale, il l'a dit hier. À qui la faute? Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui n'aurait pas assez concerté, je cite. C'est Gérald Darmanin, son collègue au compte public, qui l'a dit ce matin sur France Inter.
Le ministre l'a dit. Il a dit que la ministre du Travail n'avait pas assez concerté, ni avec les acteurs du secteur, ni d'ailleurs n'avait pas présenté sa mesure comme il le fallait. C'est une exonération sociale, c'est très important. Pourquoi? Parce que dans les 12 milliards à peu près, du ministère du Travail, on donne des plafonds. Quand on est mis du budget, on dit voilà, voici le montant de dépenses que vous ne devez pas faire. Et dedans, il y a des économies qui sont faites par les ministres. Donc la ministre du Travail, elle a proposé 300 millions d'euros d'économies, grosso modo, sur ces 12 milliards, 2% à peu près de son budget. Ce qui est certain, c'est qu'à la fois, il y a le fond et la forme. Sur le fond, moi je considère que l'idée de donner plus aux personnes dépendantes par rapport aux personnes qui ne sont pas dépendantes reste une bonne idée. Et qu'il faut continuer à concerter sur ce point, et que c'est un énorme enjeu qui est devant nous. Sur la forme, il faut prendre le point du Premier ministre. La concertation n'a manifestement pas eu l'effet escompté, puisqu'elle n'a pas eu tellement lieu, et donc nous n'allons pas la mettre, dans le
PLF. Julie de la Sablière, c'est un peu haro sur Pénicaud quand même, hein?
Oui, d'ailleurs, il a rajouté c'est une erreur, et c'est intéressant parce que finalement, ce sujet, c'était un peu une boule puante pour... l'entrée de l'acte 2 du quinquennat, et effectivement, comme les APL l'ont été au tout début du quinquennat, donc on sentait que ce dossier avait quand même le potentiel de bien envenimer les débats. Macron et Philippe les débranchent plutôt habilement et rapidement en 48 heures, en disant, retour au pragmatisme, ça y est, on n'en parle plus. Et c'est Gérard Darmanin qui, ce matin, fait le couac gouvernemental, en fait, quoi. On attendait, c'est désolidarisant, non pas de la ministre du Travail, mais de Muriel Pénicaud, qui doit citer à peu près 10 fois dans l'interview, pour bien dire
mais vous pensez qu'il est en service commandé pour charger quand même une consoeur du gouvernement, je pense que
vos collègues de France Inter avaient fait un édito juste avant en mettant en cause Bercy dans le comme à l'origine de cette mesure, et que ça a dû le chatouiller, et il a voulu se défendre dans son interview en disant attendez, c'est pas moi, c'est l'autre.
Stéphane Vernet, tout cela n'est pas très solidaire.
Non, mais alors il faut se rappeler que là le budget pour l'année qui vient sera présenté vendredi, et que la difficulté du gouvernement, c'est de tenir sa trajectoire alors que il y a eu des dépenses supplémentaires qui ont été annoncées, alors que la réduction des effectifs n'est pas aussi forte que celle qui avait été promise, et qui veulent pas toucher aux baisses d'impôts. À un moment, l'équation devient compliquée, et je vous rappelle que le gouvernement avait clairement annoncé qu'un des leviers qu'ils utiliseraient, ce serait de raboter et d'intervenir au niveau des niches.
Oui.
des niches fiscales. Et ce qu'a dit Darmanin ce matin, en fait, c'est qu'il dit, en fait, chaque ministère a la pression pour tenir son budget.
C'est ce qu'il raconte.
Il dit quoi?
Hein,
oui, c'est ce qu'il raconte. Oui. Et il dit, en fait, que chaque ministre a une latitude pour décider de coupes qui sont petites. Parce que là, on dit, c'est une mesure qui aurait concerné 600 000 personnes et qui aurait rapporté, entre guillemets, 115 millions d'euros à l'échelle du budget de l'État. C'est pas énorme, mais on est vraiment sur ces économies de bout de chandelle et chacun a l'initiative. En fait, le vrai couac, ou la boulette, entre guillemets, c'est que Muriel Pénicaud fasse ça, c'est tout à fait logique par rapport à ce qu'ils ont annoncé,
c'est
ce que je viens d'expliquer.
C'est la feuille de route de chaque ministre.
La boulette, c'est pas avoir réalisé que sur les seniors, les retraités, après tous les problèmes et les couacs précédents accumulés depuis le début du mandat, ça, c'était typiquement le genre de niche auquel il fallait pas du tout toucher.
Il fallait pas toucher.
Hein. Et peut-être que si elle s'était concertée avec ses petits collègues des autres ministères avant, là, peut-être qu'elle y aurait pas touché.
Oui, Audrey Goutard.
C'est ça qui est un peu étonnant, parce que après tout, effectivement, vous avez raison qu'elle propose une réduction, qu'elle propose un petit truc malin pour, entre guillemets, bien sûr, pour économiser quelque chose. Après tout, ça fait partie de sa feuille de route. Ce qui est étonnant, c'est que ce soit rendu public tout de suite. Alors après, on peut s'interroger, est-ce que c'est pas un petit caillou lancé dans l'eau pour voir comment effectivement ça retombe, parce que j'ai du mal à croire, alors je suis peut-être très innocente, mais j'ai du mal à croire que tout ça se fasse tout seul, que Muriel Pénicaud, toute seule dans son coin, se soit dit tiens, je vais faire cette
économie. Non. C'est d'un courage.
Non, Bercy, la mesure Bercy était à l'étude à Bercy, c'est ce que les Échos, qui en général
sont très bien renseignés,
ont indiqué. Il y avait deux parlementaires qualifiés qui aussi étudiaient la chose. Alors, ça retombe sur Pénicaud parce que c'était à elle de faire le travail, en gros, de faire passer la pilule.
Voilà.
Ce qui n'est pas le boulot le plus facile.
Pourquoi est-ce public? C'est-à-dire que cette feuille de route, tout à coup, apparaisse et soit vendue aux Français. C'est ça qui est étonnant.
Parce que hier soir, nous posions la question, ici comme ailleurs, dans les rédactions, et j'imagine que ne pas y répondre, Sylvain Courage, n'aurait eu aucune espèce d'importance. Un sujet chasse l'autre. Mais là, j'ai l'impression qu'on pointe une ministre et finalement, ça fait un petit peu de désordre.
Non, mais il y a eu une sorte de révolte de la majorité, des parlementaires qui ont eu très peur des conséquences parce que la République En Marche a mis du temps à se réconcilier avec les retraités qui constituent la base électorale de ce mouvement. Et donc, ça a été une grande frayeur politique de les voir à nouveau sollicités par la suppression de cette niche fiscale. Et donc, il a fallu intervenir sous la pression de la majorité, ce qui est toujours délicat pour le gouvernement.
Attendez, je vous propose de marquer une petite pause. On revient là-dessus dans un instant, 20h et 20 minutes sur France Info. Le rappel de l'info avec Jules Dequis.
Donald Trump s'insurge d'une crise montée de toutes pièces. Les démocrates perdent leur temps, d'après lui, en lançant une procédure de destitution. L'opposition dénonce un abus de pouvoir du président américain qui aurait fait pression sur son homologue ukrainien pour nuire à l'un de ses rivaux politiques, Joe Biden. Un compte-rendu de l'entretien publié par la Maison-Blanche révèle qu'il a bien demandé d'enquêter en Ukraine sur le fils du favori à la primaire démocrate. Impossible d'accoucher à la maternité de l'hôpital de Tourcoing jusqu'à nouvel ordre. Il y a trop de personnel absent au même moment, d'après l'agence régionale de santé. On apprend aussi aujourd'hui la fermeture définitive de la maternité de Privas en Ardèche. Là, c'est un problème de recrutement. L'établissement ne parvient pas à embaucher des gynécologues obstétriciens et des pédiatres. Sandra Müller est condamnée pour diffamation. C'est elle qui, il y a 2 ans, avait lancé le mouvement Balance ton porc sur Internet. Elle a révélé le nom d'un homme coupable, selon elle, de harcèlement sexuel à son encontre. Elle invitait toutes les femmes à l'imiter. Mais elle va donc devoir lui verser 15 000 euros de dommages et intérêts. Sur France Info, cet homme réagit. Il estime que la vraie justice est passée, celle qui se rend dans les tribunaux et pas sur les réseaux sociaux. Le bilan s'élève maintenant à 38 morts au Pakistan après un séisme hier. Les opérations de secours sont compliquées dans le Cachemire, une région de montagne sous de violentes averses. Et puis Rohan Dennis remet ça, l'Australien remporte le championnat du monde cycliste de contre-la-montre. Il conserve cet unique arc-en-ciel après un premier titre l'année dernière. L'épreuve sur route avec les chances de titre pour le Français Julien Alaphilippe, ce sera dimanche.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Je voudrais vous faire réagir un instant sur ce que vient d'évoquer Jules Dequis, Sandra Müller, l'initiatrice de l'hashtag, enfin le mot dièse, balance ton porc, condamnée pour diffamation. Commentaire avec vous, on commence par vous, Audrey Goutard.
C'est quelque part d'une grande logique, c'est-à-dire que tous les mouvements, même les plus vertueux, même les plus indispensables et nécessaires, connaissent des excès, des ratages, etc. En tout cas, c'est ce que la justice a considéré aujourd'hui, effectivement, en condamnant Sandra Müller. Donc voilà, une fois que c'est dit, ça ne remet pas en question, et d'ailleurs, ça ne remet pas en question le mouvement en lui-même, et d'ailleurs, Éric Brion, ouais. qui est mis en cause, dit bien qu'il continue à être pour ce mouvement.
C'était le plaignant, je le précise.
Oui, tout à fait, pardon. Et continue, soutient ce mouvement, mais effectivement, dit qu'il a vécu un enfer du fait, effectivement, de ces attaques dont il a fait l'objet.
Oui, Julie de la Sablière, vous pensez que ce procès va porter préjudice justement au mouvement, comme le dit Audrey Goutard, semble-t-il, peut-être il pourrait être entaché par cette décision judiciaire.
Non, je pense pas. Je pense qu'effectivement, on a bien cette lecture-là des excès qui peuvent être emportés avec ce mouvement. Et par ailleurs, je pense que c'est le temps judiciaire qui vient et qui pose les choses. Et c'est pour le coup bien d'en parler, parce que souvent on reproche que voilà, une fois que la crise médiatique est passée, plus personne n'en reparle. Et finalement, les personnes qui arrivent à faire valoir leur bon droit derrière, on n'en parle plus. Bah, au moins ce soir, on en parle. Et c'est important de le dire aussi qu'il y a eu cette suite judiciaire. Je pense pas que ça porte de discrédit pour autant à un mouvement qui était français mais international et qui a quand même contribué à libérer la parole des femmes, et c'était important.
Il fallait que la justice passe hein, à ce sujet. Francis Piner, l'avocat de Sandra Müller, a indiqué qu'il entendait faire appel, dénonçant, il a tenu un point de presse, une décision hors du temps, voire même une régression, Sylvain Courage.
Bah oui, il oppose le mouvement de société, le mouvement mondial maintenant, de tout simplement de faire la lumière sur le harcèlement, les comportements machistes et sexistes. Et il oppose ça à la loi, mais la loi existe. C'est la limite du name and shame. Quand on nomme pour faire honte, il faut pouvoir prouver ce qu'on avance ou au moins prouver sa bonne foi. C'est la loi de la diffamation. Et dans le cas présent, elle a nommé son agresseur ou en tout cas le dragueur. Elle aurait pu rapporter les faits sans le nommer. Elle a voulu le nommer. À partir de là, effectivement, il peut y avoir un préjudice pour ce monsieur.
Oui, parce que le plaignant, donc Éric Brion, accueille la décision avec une certaine forme de soulagement. Il a toujours répété qu'il n'a jamais harcelé Sandra Müller. C'est ce qu'a dit l'un de ses avocats. Stéphane Vernet, en quoi cette histoire est importante aujourd'hui, ce jugement? En quoi peut-il compter? Parce qu'il est beaucoup commenté, hein.
Non, moi je pense que ça n'aura pas d'impact sur le mouvement, et d'une. Et de deux, comme vous l'avez très bien dit, l'avocat a annoncé d'ores et déjà qu'il fera appel. Et moi, ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que si j'ai bien compris, le juge, en statuant, dit qu'il y a diffamation dans la mesure où Sandra Müller a rapporté une scène qui s'est produite avec Éric Brion en la qualifiant de harcèlement. Or, pour qu'il y ait harcèlement, il faut que les pressions soient répétées, réitérées, ce qui n'était pas le cas. Et donc, il y a diffamation sur le terme de harcèlement. Mais, enfin, je veux dire, ce qui moi m'intéresse dans cet aspect des choses, c'est que, encore une fois, il faut redire une chose très simple, c'est que les tribunaux, la justice est là pour dire le droit et pour l'interpréter en dehors de toute considération éthique ou morale. Et vous voyez bien qu'il y a deux temps. Et c'est ce à quoi on assiste. Il y a deux temps aujourd'hui dans la société, celui des tribunaux médiatiques, des réseaux sociaux, où tout va extrêmement vite et les condamnations se font directement, les extrapolations, sans aller au fond. Et une justice qui, elle, se base sur des faits, sur des textes de loi, et qui a une interprétation qui n'est ni empreinte d'éthique, ni empreinte de morale. Et quelque part, ce qui nous manque, c'est un équilibre entre les deux.
Oui, Julie de la Sablière, vous êtes d'accord avec ce qu'avance Stéphane Vernet, une décision judiciaire d'une justice qui, au fond, prend le temps d'explorer les choses et la meilleure réponse à l'emballement des réseaux sociaux?
C'est une réponse qui est malheureusement toujours tardive, évidemment, mais bon, c'est du genre, et c'est important que ces réponses, effectivement, elles puissent se faire entendre. Ça devrait tous nous inciter, évidemment, à la prudence, mais c'est...
Parce qu'on se demande à chaque fois...
dans un océan, c'est très, quand même très compliqué.
Vous qui enseignez à Sciences Po, la gestion de crise, comment est-ce qu'on répare une telle affaire? Je pense notamment à Éric Brion. Comment est-ce qu'on répare dans sa vie un tel rouleau compresseur, finalement?
Par la justice et les tribunaux.
Ouais, c'est la ça. Justice et les tribunaux, vous dites en dégoûtard.
Mais oui, parce que bien sûr. Moi, je pense que on vit. Enfin, les hommes et les femmes qui se sont servis des réseaux sociaux pour faire avancer un combat. On parle bien de combat. Et dans un combat, malheureusement, il y a des victimes. parfois des victimes collatérales. La première victime, ce sont ceux qui combattent. Et puis aussi, effectivement, en face, il y a des victimes et parfois, et c'est injuste. Et la justice est là pour réparer une injustice, justement. Et la justice, lorsqu'elle, je trouve pas qu'elle soit tardive. Effectivement, ce monsieur, lorsqu'on l'écoute, a vécu un enfer et sa vie privée a été un enfer pendant un certain temps, le temps de la justice, justement. Mais néanmoins, c'est il a été réparé, il est réparé, il a réparation. Et c'est ce que demandent d'ailleurs, ce que demandent les femmes qui combattent aussi aujourd'hui dans tous ces mouvements, c'est d'avoir une réparation judiciaire de leur côté aussi.
Et vous faites bien de le rappeler. Merci Audrey Goutard. 20h28 sur France Info. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite des informés. Nous parlerons éminemment du climat. À tout de suite.
Et si vous restiez toujours connecté à votre business avec Orange ?
Moi, chez Orange, avec l'offre Connect Pro Fibre, je travaille plus vite.
Et moi, je fais des vidéoconférences avec mon équipe.
Et moi, j'ai fait enregistrer mon message d'accueil téléphonique par un studio pro.
Alors là, je reste sans voix.
Chez Orange, avec Connect Pro, profitez de la fibre jusqu'à 20 lignes fixes, 4 forfaits mobiles et des solutions pour rester toujours joignable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr ou au 3901. Service gratuit, appel au prix d'une communication normale selon offre détenue.
Toute l'actualité, des alertes, des vidéos avec l'application mobile France Info.
France Info, et tout est plus clair.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants et de gammes respectueuses de l'environnement. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez nos gammes éco-conçues sur pilotepen.fr.
La météo, les prévisions avec vous, Sébastien Léas pour Météo France.
Demain, la journée s'annonce encore bien nuageuse avec également un vent sensible. Des éclaircies arriveront tout de même à se développer vers la Vendée dès le matin, gagnant progressivement la Touraine, le Berry et le Nord-Bourgogne, mais aussi vers la vallée de la Garonne. Le ciel des Alpes du Nord sera aussi plus lumineux demain après-midi. Sur les Hauts-de-France, le Grand Est et du Limousin à la Franche-Comté, les petites pluies et les bruines du matin seront un peu plus localisées l'après-midi. Des pluies plus organisées arroseront en matinée la Bretagne et le Cotentin, puis vont s'étendre l'après-midi entre le Golfe du Morbihan, l'embouchure de la Loire et le Nord-Pas-de-Calais. L'Ouest Bretagne retrouvera des éclaircies après une matinée pluvieuse. Le soleil sera encore plus généreux le long des Pyrénées et sur les régions méditerranéennes, avec un ciel quasiment tout bleu dès le matin. Côté température, il fera 19 degrés au Havre, à Quimper et à Mulhouse, 20 degrés à Lille, Nancy et La Roche-sur-Yon, 22 degrés pour Paris et 23 degrés à Grenoble et Bordeaux, alors qu'on attend 26 degrés à Ajaccio et Montauban, 27 degrés à Perpignan et Aix-en-Provence, et jusqu'à 29 degrés à Nîmes.
Il est 20h30 sur France Info. Toute l'info avec vous. Bonsoir Olivia Ferrandi.
Bonsoir Jean-François. Bonsoir à tous. Boris Johnson met l'opposition britannique au défi de voter une motion de défiance. Le Premier ministre est de retour à Londres ce soir, alors que le Parlement a repris ses travaux puisque sa suspension avait été jugée illégale hier. Ce Parlement est paralysé. Il ne veut pas que le Brexit ait lieu, a dénoncé le chef du gouvernement britannique. Donald Trump en position de plus en plus inconfortable vis-à-vis des démocrates qui ont lancé hier la première étape d'une procédure de destitution. Il apparaît aujourd'hui que le président américain a bel et bien demandé au président ukrainien d'enquêter sur Hunter Biden, le fils de Joe Biden qui fait les affaires dans ce pays. C'est ce que révèlent les témoignages des conseillers ayant assisté au coup de fil passé entre les deux présidents en juillet dernier. Selon les démocrates, Donald Trump voulait ainsi déstabiliser Joe Biden, possible rival pour la présidentielle de l'an prochain. Mensonge, répond excédé ce soir Donald Trump lors d'une conférence de presse.
Il n'y a aucune pression. Vous avez inventé toute cette histoire, écrit que c'était un horrible coup de téléphone, alors qu'en fait, c'était un coup de fil de rien du tout. Rien d'autre qu'une conversation au téléphone entre deux dirigeants pour se dire leur sympathie. Donc le problème, c'est que vous avez ces fake news, ces journalistes corrompus. Il y a des bons journalistes, mais il y a aussi des reporters corrompus. Et excusez-moi. Si vous avez remarqué, la bourse a dégringolé quand hier, elle a appris l'ouverture de cette enquête. Et puis, les cours sont très vite remontés, quand ils ont compris que c'était du non-sens complet. La bourse a remonté très fort. Merci beaucoup.
Et à l'instant, le président ukrainien évoque un échange téléphonique normal, dit-il, avec Donald Trump. C'est dans ce contexte que se déroule aujourd'hui encore l'Assemblée générale des Nations unies, avec toujours beaucoup de questions entre l'Iran et les États-Unis, beaucoup de tensions. Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, a annoncé aujourd'hui des sanctions contre des entreprises chinoises accusées de se fournir en pétrole iranien. Les dirigeants de la planète réunis également pour se pencher sur l'état de santé de la Terre. Les scientifiques du GIEC qui s'époumonent en vain depuis des années ont publié un nouveau rapport aujourd'hui. Certaines
conséquences du réchauffement climatique sont désormais irréversibles. L'humanité doit se préparer, disent-ils. En France, Sandra Müller, condamnée à verser 15 000 euros de dommages et intérêts pour avoir diffamé un homme qu'elle accusait de harcèlement sexuel. Décision du tribunal de Paris, elle compte faire appel. L'impôt à la source, un système gagnant pour l'État qui collecte ainsi 2 milliards d'euros supplémentaires cette année. Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, l'a annoncé aujourd'hui. Et puis une enquête ouverte après le vol de 2 ordinateurs, d'un carnet de notes et d'un badge appartenant à un ingénieur du groupe de défense Thales. Des données militaires cryptées figurent sur l'un des ordinateurs. France Info, 20h33, la suite des informés, Jean-François Aquili.
France Info, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec Audrey Goutard, journaliste à France 2, présentatrice de Ligne Directe le vendredi à 19h30 sur France Info, le canal 27. Julie de la Sablière, enseignante en gestion de crise à Sciences Po Paris. Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France. Et Sylvain Courage, rédacteur en chef à l'Obs. Emmanuel Macron, de retour du sommet de l'ONU à New York sur le climat. C'était à peine posé ce matin à Paris que le nouveau rapport du GIEC, on en a beaucoup parlé sur les océans, était rendu public. Un scénario catastrophe dont voici un résumé.
La montée du niveau de la mer est 2 fois plus rapide qu'il y a 10 ans. Le réchauffement des eaux a plus que doublé depuis 1993. Le pire des scénarios envisagés, 7 degrés de plus sur Terre d'ici 2100. Le constat est déjà là. En un siècle, le niveau des eaux a monté de manière exponentielle, puis entre 2014 et 2019, plus 5 mm par an. L'hypothèse la plus optimiste, avec seulement 2 degrés de plus, entraînerait le déplacement de 280 millions de personnes.
Voilà, on a tous vu, entendu ce rapport GIEC qui est assez inquiétant sur l'état de nos océans et la perspective de côtes qui seraient submergées. Julie de la Sablière, est-ce que cela parle au public, ces rapports qui se succèdent, qui sont de plus en plus alarmistes?
Bah, il faut saluer le travail du GIEC quand même pour faire établir des faits sur lesquels on peut tous se mettre d'accord. Ça, c'est quand même un travail qui a pris plus de 3 ans et sans chercheurs. Donc, c'est un vrai travail de fond, de scientifique, de consensus scientifique. Donc, c'est évidemment important. Macron l'avait évoqué d'ailleurs ce rapport dans son discours hier en disant que la forêt et les océans étaient les 2 grandes causes. Et je pense que c'est des choses qui parlent à tout le monde puisqu'on sait que les conséquences, c'est potentiellement 1 humain sur 5. Donc, c'est une vraie cause universelle. Sur laquelle il faut arriver à agir de concert, c'est là toute la difficulté.
Mais Stéphane Vernet, quand l'on voit qu'au fond, ces rapports sont de plus en plus alarmants et que les sommets se succèdent et qu'au fond, rien n'avance réellement, parce qu'il y a quand même des objectifs tracés par l'accord de Paris qui ne sont jamais honorés, et quelque part, est-ce qu'au fond, il n'y a pas une forme de blocage aujourd'hui ?
Si, mais on est encore loin du compte, y compris par rapport aux objectifs que s'étaient fixés les États au moment de l'accord de Paris. Mais moi, je trouve que ce qui change au fur et à mesure de ces rapports successifs, qui sont certes alarmistes, enfin très très inquiétants, des sommets qui se succèdent, on peut dire que rien ne se passe. Sauf que j'ai pour ma part le sentiment et la conviction que le regard du grand public et de l'opinion mondiale en général a beaucoup évolué, a changé. Vous vous souvenez de Jacques Chirac en 2002 qui disait à Johannesburg, oui, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. J'ai envie de vous dire que 17 ans après, presque 20 ans après, ce qui a changé, c'est que notre maison brûle toujours, plus que jamais. Littéralement en Amazonie, mais qu'on ne regarde plus ailleurs. Et la prise de conscience a énormément progressé. Les climato-sceptiques, il en reste quelques-uns, mais en réalité, ils sont très minoritaires. Et c'est ça qui change tout. C'est-à-dire que ce qui s'est joué aussi au moment du sommet sur le climat décidé par l'ONU qui s'est tenu lundi, c'est que on voit bien que sur les dernières résistances ou les résistances qui sont réelles, qui sont très importantes au niveau des chefs d'État, de certains dirigeants, de grandes entreprises, etc. Ce qui peut faire la bascule aujourd'hui, c'est une pression de l'opinion mondiale. Et celle-ci, elle est réelle et elle est en train de se constituer. Et donc ce type de rapport, même si c'est très angoissant, si ça nous fait peur, je pense que ça va aussi dans ce sens-là et donc dans le bon sens.
André Goutard.
Oui, en fait, moi j'ai le sentiment que ces rapports ne servent qu'à préparer les générations futures de politiques. Aujourd'hui, on voyait à l'ONU hier, quand vous avez Donald Trump qui dit « je crois beaucoup à l'air pur, à l'eau pure et tous les pays devraient se mettre ensemble pour y parvenir ».
C'est ce qu'il dit au premier jour quand il fait un petit tour et puis s'en va.
Donc on voit bien, voilà, exactement. Donc on voit bien que ça, c'est l'ancien temps. et il ne sera plus aux manettes dans 10 ans quand il faudra vraiment faire accélérer les choses. Donc ces rapports permettent de préparer les jeunes politiques qui aujourd'hui ont 20-30 ans et qui à 40 ans seront aux manettes. Et ceux-là auront les vraies décisions à prendre. Et on ne verra plus de Trump, on ne verra plus de président du Brésil qui vous explique que, bon, finalement, l'Amazonie n'est pas le poumon de la planète.
Oui, n'appartient pas au patrimoine de l'humanité.
Voilà, exactement.
C'est ce que dit Bolsonaro.
Donc voilà, ces gens-là n'auront plus la parole dans 30 ans parce qu'ils ne seront plus aux manettes et ce sera les nouvelles générations. Et ces nouvelles générations auront été bercées par ce qu'on entend aujourd'hui, par les rapports du GIEC et par tous ces rapports des scientifiques sérieux.
Alors il y a eu Greta Thunberg qui a marqué les esprits au commencement de ce sommet de New York. Au fond, est-ce que sa plainte contre la France aura servi à quelque chose? Question posée à Elisabeth Borne tout à l'heure, donc vous le savez, la ministre de la Transition écologique était l'invitée de France Info.
Je voudrais aussi dire à Greta que nous sommes en train de bouger.
Vous l'appelez Greta, vous ?
À l'appeler Greta Thunberg, nous sommes en train de bouger, que la France, par exemple, quand les États-Unis sont sortis de l'accord de Paris, et moi, ça m'a frappé dans toutes les rencontres que j'ai pu faire avec mes homologues à New York, ou avec les responsables de l'ONU, tous se souviennent qu'au moment où les États-Unis ont quitté l'accord de Paris, ben c'est la France, c'est le président Emmanuel Macron, qui a effectivement appelé à préserver cet accord de Paris, est-ce que tout le monde s'engage?
Alors, donc, les opinions publiques qui ont pris conscience, comme le rappelait Stéphane Bernier, mais Sylvain Courage, il y a cette Greta, comme l'appelle de façon un peu familière la ministre, qui bouscule les politiques.
Oui, mais elle répond mieux que d'autres membres du gouvernement, qui ont été un peu agressifs, qui ont dit, mais pour qui se prend-elle? Elle attaque la France. Elle considère que c'est un honneur, en quelque sorte, d'être désignée par Greta Thunberg pour pouvoir affirmer...
C'est assez affectueuse.
Pour pouvoir affirmer que la France, va essayer de relever le défi, va entendre ce qu'elle dit. Et je pense que c'est une bien meilleure réponse que d'essayer de la discréditer ou de la renvoyer à sa minorité, je veux dire, à son âge, à son jeune âge. Il y a une sorte de conflit des générations. La génération Thunberg reproche aux baby-boomers d'avoir beaucoup profité de la croissance, d'avoir abîmé la planète, d'avoir sapé un peu les rêves qui sont les siens, eh ben il faut pas se dérober à cette interpellation générationnelle.
Dragoutard.
Je voulais juste te dire que les annonceurs de mauvaises nouvelles sont jamais bien vus par les décideurs. Et cette jeune fille, effectivement, est là comme effectivement un Cassandre à annoncer la fin du monde. Et ça plaît pas. Et ça plaît pas. Et ça ne plaira jamais. Mais en même temps, elle parvient quand même à se faire entendre du monde entier. Donc bravo, chapeau pour elle.
Allez, nous restons sur le climat, mais nous marquons une pause. 20h40 sur France Info, rappel de l'info avec Jules Dekis.
Benny Gantz refuse de participer à un gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahou. Le chef du parti centriste rejette la main tendue par le Premier ministre sortant, tout juste reconduit à son poste par le chef de l'État. Israël semble donc dans une impasse politique. Seul avec ses alliés, Netanyahou ne peut pas gouverner. Il n'a pas de majorité au Parlement après les législatives. Monsieur Trump est peut-être l'un des derniers à ne pas entendre les alertes de nos scientifiques, d'après la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne. Elle était l'invitée de France Info. À l'inverse du président américain, il faut d'après elle écouter le GIEC, les experts sur le climat. Ils alertent sur l'état de nos océans. Leur niveau monte à cause de la fonte des glaces. Des espèces marines courent à leur perte. Des centaines de millions d'humains seront contraints, d'après eux, à la migration. Les États-Unis durcissent encore l'embargo sur le pétrole iranien. Ils étendent les sanctions contre quiconque en achèterait. Nouveau tour de vis contre Téhéran, accusé par Washington d'être agressif, de financer le terrorisme. Ça éloigne la perspective d'une reprise des discussions pour un accord sur le nucléaire, comme le veulent les Européens. La SNSM recherche toujours deux marins portés disparus au large de Belle-Île. On a retrouvé leur bateau vide sur la côte en début d'après-midi. La tâche des sauveteurs en mer est compliquée par les conditions météo qui se dégradent. Et puis ils sont déjà très haut dans le ciel, au-dessus de nos têtes, en train de rejoindre la Station Spatiale Internationale. Trois nouveaux astronautes en route pour l'ISS, une américaine, un russe et un émirati, le tout premier habitant des Émirats Arabes Unis dans l'espace.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Pendant qu'Emmanuel Macron appelle à des stratégies communes, hein, zéro carbone, zéro forestation, comme le rappelait Julie de la Sablière, c'était hier soir. Lui, Donald Trump, il parle de Chine et d'Iran. Pour le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, qui était l'ancien président de la conférence de Paris sur le climat, la COP21, le résultat de l'élection américaine va peser.
Le moment est extrêmement grave, les petits pas ne suffisent pas et il s'agit de sauver le futur. Donc,
oui, mais une fois qu'on a dit ça, rien ne se passe, pardon.
Si, il y a des choses qui se passent, mais pas assez. Bon, on connaît la référence. La référence, c'est là où je suis impliqué, c'est pour ça que j'ai été invité à New York, c'est l'accord de Paris que j'ai présidé et négocié. Bon, donc il n'y a pas à revenir là-dessus, mais maintenant il faut l'appliquer. Alors comment on l'applique ? Par la pression. Hein, la pression. Mais les grands gouvernements ne bougent pas. Et donc, il faut revenir à la politique. L'événement le plus important pour le climat, ce sera l'élection américaine.
Alors, Laurent Fabius, avec Léa Salamé sur France Inter ce matin, Stéphane Vernet, faire pression sur Donald Trump ?
Mais alors, je pensais pas que je dirais ça un jour, mais je suis d'accord avec Laurent Fabius. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure, en fait. C'est-à-dire que le vrai moyen de faire évoluer les choses et de faire bouger les choses et rapidement aujourd'hui, c'est la pression. Mais c'est pas la pression des chefs d'État les uns sur les autres. C'est la pression populaire. C'est la pression des électeurs. Mmh. Et moi, je pense que c'est ça qui se joue en ce moment. Il me semble qu'on est quand même quelque part à un point de bascule. Les choses vont plus vite, plus fort. Oui. Il y a des choses qui ont été faites. Donc dire que rien n'a été fait, que c'est l'inaction qui condamne les générations futures. Moi, je souscris pas à ce discours-là.
C'est pas vrai. Rien n'est fait, c'est que ça ne va pas assez vite.
Oui, pas assez vite. Et ouais. Ce sont les électeurs de chacun des pays, la pression populaire qui peut obliger les politiques à passer 1, 2, 3 crans au-dessus dans un délai court. Et c'est ça qu'on est en train de voir en ce moment.
Julie de la Sablière.
Dans cet océan de pessimisme, je pense qu'il faut être optimiste. Vous disiez justement, Jean-François, que les sommets se multiplient. Mais les sommets se multiplient, c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire que là, c'est un sommet climat. Normalement, on parle de climat plutôt dans les COP. Donc effectivement, il y a toute une série de nouveaux rendez-vous où cette diplomatie climatique peut avancer. Ce qu'on voit aujourd'hui à l'ONU, c'est qu'en fait, Macron, quand il a fait son discours, ne parle pas seulement à des chefs d'État. Il parle à une coalition qui est de plus en plus faite d'acteurs d'ONG, de maires de grandes villes, de grandes entreprises. On n'a jamais vu autant de grandes entreprises françaises, par exemple, être à New York pour cette occasion et prendre des engagements. Donc, ce qu'il essaie de faire, c'est pas forcément de convaincre les récalcitrants, mais c'est plutôt d'être le chef de file de cette nouvelle coalition qui sera faite d'acteurs, ce qu'il a fait avec typiquement le One Planet Summit, etc. Mmh. D'une nouvelle coalition d'acteurs qui sera pas seulement les États, parce que les États bougeront moins vite que la société civile, que le secteur privé ou que les ONG.
Oui, on en revient au titre de l'Obs, hein, Sylvain Courage. C'est un des items de votre dossier
qui est
publié demain. A-t-il changé ? Alors, il est très écolo maintenant. Hein.
Oui, il avait, c'est pas nouveau, mais il le montre beaucoup plus. Et puis il y a vraiment intérêt parce que l'attente est très forte dans l'opinion française. C'est une des opinions qui a basculé. Aujourd'hui, le sujet est au centre de toutes les conversations. Donc la réélection peut-être se joue aussi sur ce sujet-là.
Allez. C'est depuis New York, hein, et bizarrement d'ailleurs, et le sommet climat qu'Emmanuel Macron justement a accordé un entretien à Europe 1 et évoqué publiquement pour la première fois le sujet de l'immigration qu'il avait lui-même d'ailleurs mis sur la table devant ses troupes. Hein. C'était il y a 9 jours au ministère des Relations avec le Parlement et notamment l'AME, l'aide médicale d'État. Faut-il la réformer ? On écoute le chef de l'État, c'est un document européen.
J'ai entendu dans les débats certains qui disaient il faut supprimer l'aide médicale d'État. Ce serait ridicule. Mais est-ce que l'aide médicale d'État a un panier de soins, comme on dit, qui correspond à tout ce qui est nécessaire ? Ça, il faut l'évaluer. Moi, je n'ai pas la réponse, mais on a le droit d'avoir un vrai débat, parce que sinon, c'est un débat, il faut rien toucher, on voit des excès, et il faudrait tout supprimer. Moi, je ne veux pas ce débat pour notre pays. Il faut un débat pour regarder ce qu'on fait par rapport à nos voisins.
André Guttard, étonnant d'abord ce retour depuis les États-Unis en plein sommet sur ce sujet qui fait polémique en France. Hein.
Oui, il veut ouvrir évidemment. C'est lui qui ouvre finalement ce débat sur l'immigration. Il remet même en question la loi qui a été votée par le précédent ministre de l'Intérieur. Il parle effectivement de cette aide médicale d'État. Et ce qui est intéressant, c'est quand même de remettre la définition en place. C'est-à-dire que l'aide médicale d'État, c'est ce qui permet à des gens qui viennent d'arriver et qui n'ont aucun papier de bénéficier d'une couverture sanitaire. C'est ce qui nous protège nous aussi, parce qu'effectivement, si ces gens sont en mauvaise mauvaise santé, c'est ce que ça évite des épidémies, ça évite, ça permet effectivement de recevoir dignement les gens, etc. Donc même le président aujourd'hui refuse de remettre ça en question.
Oui, il dit pas question de supprimer. Et alors, il faut peut-être.
Je dois vous avouer oui. que ce qui m'a intéressé particulièrement dans son entretien, c'est qu'il reconnaît une chose et que ses prédécesseurs refusaient de reconnaître, c'est que il y a un vrai problème sur le retour des déboutés d'asile, du droit d'asile. Seuls 10% des déboutés de l'asile sont reconduits à la frontière. Et c'est ça qui crispe le plus les Français.
L'aide médicale d'État, Stéphane Dernay, il y a les deux chiffres qui sont connus désormais, 300 et quelques mille bénéficiaires.
Pour 934 millions d'euros.
2019, c'est le budget. C'est un sujet qui préoccupe l'opinion publique.
Ah, je sais pas, mais est-ce que ce point, alors la question de l'immigration et ce débat-là, je pense que c'est, d'une manière générale, c'est une question qui préoccupe l'opinion publique. Oui. Est-ce que le cas précis de l'aide médicale d'État préoccupe l'opinion publique? Je sais pas. Je suis pas sûr que tout le monde perçoive bien de quoi il s'agit. Les volumes, en fait, 934 millions d'euros, c'est énorme, mais pour vous, pour moi, pour le commun des mortels, c'est totalement inaccessible. Ça représente rien. Ce qui est important, moi, je rejoins complètement Audrey Goutard, et c'est aussi pour ça que c'est peut-être qu'il faut revoir le panier de soins, mais il faut surtout pas la supprimer, parce que 300 000 bénéficiaires, il y a le côté humain de la chose, mais il y a plus que ça, c'est que cette aide médicale d'État, elle nous protège aussi collectivement. Vous savez qu'un parmi les soins qui coûtent le plus cher, mais qui sont indispensables, c'est le traitement contre la tuberculose. Vous arrêtez l'aide médicale d'État, vous avez un certain nombre de gens qui sont sur notre territoire, qui sont plus soignés pour leur tuberculose. Vous verrez les conséquences dans nos écoles et pour les Français. Évidemment, il ne faut pas la supprimer. Mais oui, elle protège tout le monde.
Juste un petit point, pardon, ce qui est sous-jacent derrière tout ça, c'est, alors, je ne mets pas du tout le président Macron dans ce sac-là, mais vous savez bien que chaque fois qu'on remet en question l'aide médicale d'État, c'est pour dire, est-ce qu'il n'y aurait pas une médecine de confort, des étrangers qui profiteraient de notre système pour effectivement se faire soigner à l'œil. Aujourd'hui, l'aide médicale d'État, ça n'est pas du tout ce qu'il apporte. Faut savoir que les gens qui ont l'aide médicale d'État vont dans des dispensaires, sont extrêmement encadrés. C'est pas pour aller se faire de la liposuction ou de la chirurgie esthétique, vous voyez.
Alors, des prothèses de hanche,
ça a été souvent évoqué.
Non, mais c'est un sujet symbolique.
C'est la courage, oui.
C'est effectivement la crainte que des étrangers viennent profiter de notre système de santé. Et donc c'est très symbolique, et ça permet à Macron d'envoyer un signal en disant je n'ai pas de tabou, j'ouvre tous les débats.
Il dit quand même évaluation, il parle, oui, il dit lutter contre certains excès probables.
Ils vont probablement, si on fait une évaluation, dans tout système, on peut trouver des dérives, des abus. Et en dénonçant ces dérives et ces abus, qui sont sans doute minoritaires, et ça lui permet de dire « j'ai fait quelque chose pour lutter contre ce fléau supposé de l'immigration et de cette immigration qui profiterait de notre système de santé ». Et en même temps, ça lui permet quand même de réaffirmer le principe de l'AME, qui est un principe évidemment humain et universel.
On va rester sur ce sujet de l'immigration mis sur la table par le chef de l'État. 20h50 sur France Info. Tout d'abord, le dernier appel de l'info avec vous, Jules Dekis.
Le président ukrainien évoque un échange téléphonique normal avec Donald Trump. Il vole au secours de son homologue américain dans la tourmente. Il fait face à une procédure de destitution. Les démocrates l'accusent d'abus de pouvoir, d'avoir fait pression sur l'Ukraine pour obtenir des renseignements compromettants sur Joe Biden, celui qu'il pourrait affronter à la prochaine présidentielle. Un compte-rendu de cet échange évoque en effet la demande d'une enquête par Trump contre le fils de Joe Biden, soupçonné de malversation. En pleine crise du Brexit, Boris Johnson met au défi son Parlement, celui qui recommence tout juste à siéger après une suspension finalement jugée illégale. Il invite les travaillistes à lancer contre lui une motion de censure pour le renverser. Il les invite sinon à ne pas s'opposer à lui qui veut une sortie de l'Union européenne, même sans accord le 31 octobre. Après une fermeture d'usine en Écosse, il y a quelques mois, Michelin va fermer un site en Allemagne. Il emploie près de 900 personnes. La demande de pneus est en baisse, la concurrence fait rage notamment avec les marques asiatiques. La mairie de Champfleur, dans le département de la Sarthe, décide de déplacer une aire de jeu pour enfants. Un couple de riverains a porté plainte pour nuisance sonore et le maire leur donne les raisons car d'après les experts mandatés, il aurait fallu construire un mur acoustique de 2 mètres de haut tout autour. Angers reste deuxième de la Ligue 1 de football grâce à une victoire 1-0 à Toulouse. Victoire de Bordeaux 3-1 à Amiens, 2-2 entre Lyon et Brest, 2-0 pour Lille contre Strasbourg. La douche froide continue pour Saint-Étienne, défait à domicile par Metz. Dans moins de 10 minutes, c'est le début du match entre le PSG et Reims.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
La France ne peut pas accueillir tout le monde si elle veut accueillir bien. C'est ce qu'a donc expliqué Emmanuel Macron depuis New York sur Europe 1, ajoutant que cette AME dont on parle tant depuis plusieurs jours, eh bien, serait non pas supprimée, mais évaluée. Brassage de vent, lui répond le Rassemblement National par la voix de son porte-parole Sébastien Chenu sur France Info.
Évaluons. En fait, Emmanuel Macron, en disant ça, nous dit la réalité de ce faux débat sur l'immigration qui va s'engager, c'est que c'est un brassage de vent. Oui, mais il n'ira pas au bout. Il va faire une évaluation, il va raboter un petit peu pour dire qu'il a fait quelque chose. La réalité, c'est qu'il faut remettre complètement à plat tout ça, et ils ne le feront pas.
Julie de la Sablière, on va dire résultat obligatoire sur ce dossier mis lourdement sur la table par le chef de l'État, parce qu'au fond, si d'aventure, au bout du bout, il ne se passe rien, ça risque de peser lourd en termes électoraux.
Moi, j'avoue que je suis un peu perplexe par rapport à cette interview qui a été donnée. Alors peut-être qu'il est un peu...
Vous voulez dire stratégie celle du président
pour le coup, parce qu'effectivement, d'aller parler de ce sujet-là, alors qu'on sortait d'une séquence climat quand même un peu... lourde et importante, qu'il sera demain, je crois, à Rodez sur la réforme des retraites.
Vous pensez qu'il aurait dû zapper les questions éventuelles posées sur ce type de sujet.
Répondre à ces questions-là, c'est quand même compliqué. Enfin, j'ouvre un nouveau débat qui finalement n'apporte pas forcément grand-chose, et perplexe par rapport au fait, effectivement, de mettre sur la table, clairement, puisque ça, il l'a fait à dessein il y a 10 jours, comme on le rappelait, de mettre ce sujet de l'immigration, ou annoncer aux parlementaires de sa majorité qu'il va mettre le sujet sur la table, dans un moment où, en fait, ça ne fait pas partie des préoccupations prioritaires des Français, non. Puisque la protection de l'environnement est montée comme un élément important, le pouvoir d'achat, etc.
En première ligne, c'est le pouvoir d'achat, puis en deuxième,
exactement.
Au fond, les préoccupations.
Et donc, alors, c'est peut-être parce que, justement, le sujet est peut-être un peu moins passionnel que quand on a des questions de terrorisme ou des grandes émotions par rapport à des vagues de migrants. Mais il est clairement dans une stratégie de mettre le sujet sur la table. Et pour le coup, s'il y a une mauvaise façon d'aborder ce sujet, c'est bien celui de l'aide médicale d'État, qui est quand même un tout petit bout du débat dont on dit effectivement, tout ça pour dire, ça serait ridicule de le supprimer. Donc pourquoi il va là-dessus et pourquoi il apporte...
Emmanuel Macron se trompe de stratégie avec ça.
Je pense que on sait que c'est un débat qui est pas évident à mener. On essaie de remettre la vérité des chiffres pour avoir un débat un peu dépassionné sur le sujet. Mais c'est la mauvaise façon de le faire.
Il pense surtout au municipal, parce que le spectre de l'immigration, encore une fois, hante certains esprits et dans une certaine partie de la France, notamment au sud-est de la France, où il y a beaucoup de villes qui sont qui pourraient être conquises par le Rassemblement National, et il essaye d'envoyer des petits signaux. Alors c'est pour ça que son positionnement est un peu déroutant, parce que c'est comme s'il faisait des petits clins d'œil, des petits appels à cette partie-là de l'opinion. Mais effectivement, si on prend l'opinion dans sa globalité, le sujet de l'immigration n'est pas le premier.
Petit signaux, Stéphane Vernet, mais quand même gros débat. Hein, lundi, sans vote à l'Assemblée nationale, puis ensuite deux jours après au Sénat, ça fait beaucoup quand même.
Oui, alors je sais pas si alors on peut lui prêter des visées, des arrière-pensées politiques, etc. Enfin, c'est ce qui ressort de partout. Après, il y a quand même une situation qui pose question, c'est-à-dire que on est actuellement dans une configuration où le nombre de demandeurs d'asile baisse partout en Europe, sauf en France, où il augmente. De manière assez étonnante. C'est-à-dire que personne n'est capable de dire vraiment pourquoi est-ce qu'on a autant de demandeurs d'asile. Il y a eu une explosion du nombre de mineurs non accompagnés, et là, qui pour le coup a un impact très fort sur l'ensemble du territoire, et pas que dans le sud-est, et pas que dans les grandes villes, ça fait partie des choses aussi qui sont perçues au quotidien par les gens, et l'idée de remettre tout ça sur la table et d'en rediscuter, je pense qu'il y a ça au-delà d'un calcul politicien qui existe probablement, il y a aussi l'intérêt de tordre le cou à un certain nombre de fausses idées, de fantasmes. Si ça permet d'avoir un vrai regard sur les chiffres, les tendances, je pense que c'est pas inintéressant. Et une dernière chose que je trouve moi frappant dans cette histoire, c'est que dans les propos du président de la République, il a réutilisé des arguments qu'on entendait l'année dernière ou il y a 2 ans, notamment au moment du débat sur la loi asile-immigration.
Oui.
Et quand il dit on est à la fois inefficace et inhumain, il reconnaît qu'il y a un problème de reconduite à la frontière, etc. C'était des choses qui étaient censées être résolues l'an dernier
par cette loi. Alors c'est peut-être trop tôt pour qu'elle porte, pour qu'elle ait des effets, mais il y avait aussi dans le débat de l'année dernière sur la loi asile immigration la volonté de montrer à l'extérieur, au monde entier, que finalement ce serait compliqué pour les migrants, que c'était plus la France n'était plus une destination pour eux, que les choses allaient se passer différemment. Et sauf que les chiffres augmentent quand même. Donc ça n'a pas marché. C'est aussi un constat d'échec.
Pour conclure rapidement, Audrey Goutard.
Rapidement, moi je suis d'accord. À l'aune des élections prochaines, effectivement, pratiquer la politique de la chaise vide sur le débat de l'immigration, c'est compliqué, sachant qu'effectivement en face c'est Marine Le Pen et son parti qui sera son principal adversaire. Et d'autre part, la loi sur l'immigration qui est passée au mois de juillet ne fonctionne pas et les gens le voient bien. Je vous disais tout à l'heure que 10% des déboutés du droit d'asile ne sont pas reconduits. Seuls 10% des déboutés du droit d'asile sont reconduits à la frontière et ça n'est pas un bon résultat.
Allez, Sylvain Courage, le rappel de la une de l'Obs. Macron a-t-il changé avec pas mal d'items, discours sur le climat, l'immigration, un banc d'essai, dialogue avec les syndicats, les petites phrases. Il y a beaucoup de choses dans ce dossier. La une de West France. Stéphane Vernet.
Les retraites avec une interview de Jean-Paul Delevoye.
Et vous, Audrey Goutard, vendredi, que nous proposez-vous pour Ligne Directe ?
Alors, pour répondre à nos téléspectateurs, on aura Bruno Gassiot.
Et merci à vous, Julie de la Sablière, d'avoir participé à ces informés de France Info. Je vous dis à demain soir pour une toute nouvelle édition sur France Info. Bonne soirée.